Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous accueillons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris les milieux associatifs nantiens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, notre invité est l'artiste plasticien Gilbertin.
Les Masques tombent sur RCN.
Gilbertin, bonjour. J'ai eu du mal à dire ton prénom, j'en suis désolée.
Bonjour, oui ça arrive à d'autres personnes.
C'est un plaisir de te recevoir dans nos locaux, c'est une première pour toi aujourd'hui.
Ouais, merci de me recevoir, moi aussi je suis ravi.
Alors Gilbertin, tu exposes en ce moment, tu vas un peu nous expliquer ton art qui est haut en couleurs et qui joue aussi avec nos perspectives.
Oui tout à fait, donc j'expose actuellement jusqu'au 25 décembre au château de Madame de Graffigny, à Villers-lès-Nancy, dans un espace qui est assez intéressant, assez vaste. Donc j'ai une exposition qui est par conséquent assez complète, donc qui montre les différents aspects de mon travail. On a du travail en volume, on a du travail plus à plat, on a de l'installation, on a des impressions, voilà, on a une variété assez large.
Tu joues beaucoup avec la géométrie dans tes œuvres et on aimerait savoir le procédé. Est-ce que tu vas d'abord trouver une idée, une forme, une émotion et après trouver le matériel pour construire ?
Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours le même processus, finalement. Je me laisse beaucoup guider par les émotions, ça c'est sûr. Ça peut être des choses que je ressens, ça peut être la musique aussi. Voilà, c'est assez varié. Après, j'ai aussi les matériaux que j'utilise beaucoup et c'est souvent les matériaux qui vont guider la conception et la réalisation de l'œuvre. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de recette, mais... Mais voilà, tout est bon à prendre finalement, et voilà.
Comment tu procèdes ?
Alors comment je procède ? Tout dépend du type de projet. Hein. J'ai des œuvres qui sont relativement longues à créer, hein, qui me prennent plusieurs mois. J'ai deux toiles par exemple à l'exposition, des formats de 2 mètres par 2, qui m'ont pris 2 ans en l'occurrence. Enfin, une qui m'a pris 1 an et une autre 2 ans. Donc là, il n'y a pas forcément de trame au départ. Il y a peut-être un croquis ou une vague idée, une pulsion peut-être. Et puis ensuite, venir travailler régulièrement par période, laisser de côté pendant une autre période, travailler sur d'autres choses, revenir avec un œil différent. Voilà, ça peut être une approche de mon travail. Après, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus structurés d'emblée. Notamment mon travail en volume. Il y a des œuvres qui sont peut-être plus rapides à faire, qui sont plus minimalistes, et d'autres qui sont plus complexes, où il y a vraiment un gros travail de construction. Et ça, c'est petit à petit. C'est pareil, ça peut durer très très longtemps. Voilà, donc comme je disais avant, ça peut être les matériaux, ça peut être des vagues idées, c'est souvent le moment qui fait la création en fait, en tout cas qui amorce la création.
Tu as dit tout à l'heure que tu travaillais beaucoup avec les émotions, parce que quand on regarde tes œuvres, elles ont toute une homogénéité.
Et, oui, c'est vrai.
Et comment tu as réussi à trouver ta signature ?
Alors bon, ça fait plus d'une vingtaine d'années hein, que je suis que je crée entre guillemets. J'ai commencé à graffer de manière illégale dans la rue. C'était pas forcément une volonté de ma part initialement, mais ça voilà, c'est devenu quelque chose qui est devenu important, voire peut-être primordial à un moment donné dans ma vie. Et tout ça m'a façonné en fait. Donc là, concrètement, la culture graffiti, tous les graphismes, tous les codes, c'est quelque chose ce sont des choses qui ont fait partie vraiment de moi à un moment donné, et c'est par cette histoire-là que j'ai développé par la suite les graphismes que j'utilise actuellement, enfin qui me sont en fait finalement très propres, parce que voilà, j'ai affiné certains graphismes de lettres. Alors on le perçoit pas tout le temps, mais il y a souvent et ça rejoint ce que éventuellement ça peut compléter ce que je viens de dire avant, il y a souvent des graphismes de lettres qui me permettent quand même en partie, de manière peut-être déstructurée, qui me permettent de composer en fait souvent des bases d'œuvres. Alors c'est pareil, hein, c'est pas une recette, c'est pas à chaque fois, c'est des fois, Des fois, j'ai quelques formes qui viennent, et puis à un moment donné, je me dis, ah bah oui, bah ça forcément, ça, c'est telle lettre qui ressort, et du coup, ça va aiguiller éventuellement un petit peu la suite de la composition, ou pas, tout dépend. Voilà.
On continue de parler de ton art et de la palette que tu as à nous faire découvrir.
Oui.
Juste après une petite pause de Donny Hathaway, A Song for You.
Places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now. And I'm singing this song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Through me, 'cause we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of a true love, withholding nothing. You came out in front when I was hiding. Together, listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. Space or time. I love you for my life. You're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together.
We were alone and I was singing this song to you. We were alone and I was singing this song to you. We were alone and I was singing this song. Singing this song to you.
Les masques tombent sur RCN.
Nous sommes avec l'artiste plasticien Gilles Bertin. Nous étions en train de discuter de son art et de son procédé avec ton exposition en ce moment à Villiers-les-Nancy.
Oui, je confirme.
Dis-moi, dis-nous. Est-ce que on en parlait un petit peu en antenne sur la question de d'artistes urbains. Tu nous disais tout à l'heure que tu graffais un peu et tu es passé du graphe à exposer dans des châteaux.
Oui, c'est vrai. Bon, ça a été comme je disais tout à l'heure un parcours un peu long. Hein. Ça s'est pas fait comme ça et. Bon, c'est, disons que c'est le... Alors, j'ai pas graffé un peu, j'ai graffé vraiment beaucoup. J'y ai consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pendant beaucoup d'années. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a forgé, en fait, je pense. J'ai découvert le graffiti, finalement, par hasard. C'était pas une volonté de ma part. C'est par le biais de personnes que j'avais rencontrées qui graffaient que je suis, on va dire, tombé dedans. Au bout d'un certain temps, je suis vraiment, vraiment tombé dedans. C'est quelque chose qui a fait partie de moi et qui m'a complètement ouvert sur l'art. Voilà, ça m'a ouvert les yeux. J'étais pas insensible auparavant, mais en tout cas, ça m'a donné vraiment ce goût de la création, de développer quelque chose. Et donc, je me suis retrouvé au bout de quelques années avec la possibilité de travailler en atelier. J'ai commencé à nourrir un processus comme ça. Et puis, de fil en aiguille, on m'a proposé de faire une exposition. Donc, c'était en 2004. À ce moment-là, j'ai vu les retours du public. J'ai ressenti quelque chose d'assez fort et les choses étaient assez claires à ce moment-là sur la suite de ma vie après j'ai continué dans ce sens-là et donc j'ai continué, je me suis même remis très très sérieusement au graffiti pendant une paire d'années donc dans la rue en l'occurrence de manière vandale et j'ai développé mon style entre guillemets de graffeur. Toutes ces recherches en fait graphiques liées aux lettres m'ont conduit ensuite à développer un autre travail artistique, donc plutôt d'atelier, mais pas exclusivement, autour de la géométrie et de ces formes qui étaient très, très typiques de mes typographies, en fait, avec des courbes. Un travail était assez, relativement propre, on va dire, relativement construit. Depuis, il y a encore une dizaine d'années qui se sont écoulées avec, pareil, j'ai peaufiné les choses. C'est beaucoup de travail, en fait. C'est juste beaucoup de travail et c'est à l'échelle d'une vie, en fait. On se plonge dans quelque chose et on continue, on déroule le fil petit à petit.
Est-ce que tu viens de Nancy ? Parce que ton parcours est assez particulier, comme tu le dis. T'as toujours été dans la région ?
Alors dans la région, oui. Moi, je suis natif d'Épinal. Et ça fait une trentaine d'années que je suis à Nancy. Je suis arrivé quand j'étais adolescent. Tout simplement, je suis resté à Nancy, même si j'ai pas mal voyagé, que j'aurais pu à un moment donné dans ma vie espérer aller vivre ailleurs qu'à Nancy. Finalement, la vie en a voulu autrement. J'ai fondé une famille à Nancy, je me suis investi dans des projets, dans des associations à Nancy. Et ça ne m'empêche pas d'avoir mon réseau ailleurs parce qu'on ne peut pas espérer vraiment vivre de sa création à Nancy. Donc c'est vrai que j'ai rapidement compris ça et que je suis allé voir ailleurs s'il y avait des choses à faire.
Au niveau de ton parcours artistique et de ton parcours scolaire, comment tu as appris à dessiner, à graffer, à construire?
Bah, j'ai appris, en fait, je n'ai pas du tout de formation, alors, ni dans l'art, ni dans l'architecture, parce qu'on me fait souvent la réflexion quand on voit l'expo, parce que mon travail, on pourrait le...
Design.
Ouais, on pourrait l'imaginer comme des maquettes d'architectes, en fait. Il y a beaucoup d'architectes qui sont sensibles à mon travail, finalement. C'est peut-être pas un hasard, mais j'ai aucune formation dans ces domaines-là. Je suis éducateur spécialisé de formation, donc absolument rien à voir. Et donc voilà, comme je disais, c'est le graffiti qui m'a donné ce goût-là. Et tout ce que j'ai appris, c'est soit en apprenant du milieu directement du graffiti. Voilà, hein, travailler des lettres, il y a tellement de styles. Bon, déjà à l'époque, il y avait beaucoup de styles, maintenant il y en a encore davantage. Hein. Ça traverse la planète entière, donc c'est très riche. Donc voilà, c'est ce que j'ai appris par ce biais-là. Et puis après, c'est ce que j'ai développé moi-même. C'est ce que j'avais sûrement au fond de moi, que j'avais besoin de travailler, d'amener à d'autres niveaux. Donc non, je suis autodidacte en fait. Ça me va bien.
D'où beaucoup d'émotions dans ton art. C'est pour ça qu'on arrive plus un petit peu à se fondre, se plonger dans tes œuvres, parce qu'il y a beaucoup d'émotions.
Oui, je suis quelqu'un, de très sensible, en fait. Donc, effectivement, j'imagine que c'est cette sensibilité-là qui, à un moment donné, surgit et qui est obligée de faire aboutir quelque chose, finalement. Enfin... Moi, c'est vrai que mon travail, je le conçois comme une sorte de pansement, quoi, à mon échelle, quoi, pour que la vie soit moins âpre, moins dure au quotidien, en fait. Voilà, c'est ce que je peux ressentir du monde environnant qui me touche énormément, en fait. Je pense que mon travail est là pour justement me permettre d'avoir une vie un peu plus équilibrée. Si je ne l'avais pas, je pense que voilà, je n'aurais pas la vie que j'ai actuellement, clairement pas. Voilà.
On continue à découvrir ton univers juste après Gregory Porter, « If Love is Overdead ».
If love is overrated, let me be the one that is naive. If love is overrated, let me be the one that is deceived. Let me find that your hands that are touching me is not the hand it's supposed to be. Your lips an illusion. Let me be the only fool for your embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. If love is overrated, why is it the only thing I serve? If love is overrated, why is the one I'm in the one that I deserve? I can tell you, oh, it feels so real. Every touch that I steal, your arms an illusion. Let me be the only fool for your embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. Oh, I'm okay.
with love's never-ending dream. It's a risk I like to take in the hope I never wake from this thing I call my fate, reality. If love is overrated, let me be the one that is naive. If love is overrated, let me be the one that is deceived. Let me find that your hands that are touching me is not the hands that's supposed to be. Your lips an illusion. Let me be the only fool that you embrace. Let me fall upon my face. I like this strange illusion. That's the risk I like to take in the hopes I'll never wake from this thing I call my fate, reality. If love is overrated, I like overrated. If love is overrated, I love overrated. If love is overrated, I am obsessed with overrated. If love is overrated, I'm in love with overrated.
Overrated. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN.
Nous sommes avec notre plasticien Gilbertin. Nous étions, j'ai du mal.
Tu prononces bien.
Je prononce de mieux en mieux. on était en train de parler de ton
de
art.
De la prononciation de
ton nom aussi.
On en a parlé longtemps. Pardon.
Tu es autodidacte.
Oui.
Tu parles beaucoup à travers ton art, avec beaucoup d'émotions. Et bah là, juste là, à l'instant, on se disait que c'était compliqué de vivre de son art, d'être artiste, plasticien aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. C'est très compliqué. Il y a peu d'artistes qui en vivent. Il y en a beaucoup qui tentent de survivre, en tout cas. Donc, on a beau avoir une notoriété, avoir exposé à l'étranger, avoir un nom, c'est pas facile. C'est pas facile au quotidien. Il y a des périodes qui se passent bien, avec des choses assez dynamiques, des rentrées d'argent. Et puis il y en a d'autres où on est dans le flou, on sait pas où on va, on sait pas comment on va manger le mois prochain. Et c'est vrai que ça constitue bien souvent la vie d'un artiste. Et c'est pas forcément très, très équilibrant comme contexte. Voilà, d'autant que les artistes plasticiens n'ont pas de minima sociaux comme les intermittents. Mmh. Donc voilà, s'il y a un mois ou même une période de l'année où il n'y a pas d'argent qui rentre, il y a pas non plus de chômage derrière. En guise de bouée de sauvetage. Donc voilà, c'est vrai que pour échanger avec pas mal d'artistes, même certains artistes qui on pourrait se dire qu'ils tournent bien, qu'ils en vivent à peu près correctement, non, c'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. Il y en a très peu finalement qui sont au-dessus de ça. Tant mieux pour eux, mais voilà, il faudrait de la place pour tout le monde et on en est loin.
Juste avant ou pendant le Covid, au début du Covid, tu as un petit peu exploré une autre forme d'art. Qui était le tatouage
Oui, c'est vrai. Alors, c'était même bien avant. C'était le tatouage m'a depuis quoi 98. Voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Hein. Je me suis fait tatouer voilà à cette époque-là et j'ai toujours réfléchi à la manière d'appréhender le travail sur le corps humain. Et au fil du temps, j'ai rencontré des tatoueurs, dont certains à un moment donné m'ont dit « Mais tu devrais, ton travail s'y prête vraiment, tu devrais te lancer. » Et donc en 2015, j'ai commencé à travailler davantage le dessin déjà, pour voir où je voulais aller précisément dans ce type de création graphique. Parce que j'étais plus dans un travail en volume, un travail en peinture. Et donc là, ça m'a permis de me plonger dans le dessin, travailler sur du... qu'on appelle le dot work en tatou, travail avec des points. Et donc par la suite, on m'a prêté du matériel, j'ai commencé à m'exercer sur de la peau synthétique. Et puis ensuite, j'ai quelques personnes qui ont bien voulu me laisser accéder à leur peau et travailler dessus. Donc je me suis lancé dans un projet assez conséquent, en l'occurrence avec un ami. Je crois, un projet qu'on a mis au total peut-être, je vais dire des bêtises, 2 ans ou 3 ans à réaliser, et c'était un bras complet, plus le torse, enfin même tout le haut du corps. Le style était clairement mon travail habituel, quoi, sauf que adapté à la morphologie du corps, et du coup dérivé de la manière dont j'appréhendais mon travail dans le passé, quand j'intervenais dans des sites désaffectés où je cherchais à donner une cohérence à un mur, à un ensemble en fait d'éléments, quoi, que ce soit le sol, le mur, différents pans de mur. Voilà, j'envisageais mon œuvre comme un tout qui s'incorporait dans l'existant, le travail in situ. Et donc voilà, c'est un élément que j'ai souhaité. Le tatouage, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et que je me suis donné les moyens de développer. Et donc effectivement, en 2020, j'ai intégré un salon de tatou. Et donc le but était vraiment de me professionnaliser, enfin en partie, parce que je voulais quand même garder mon travail artistique habituel. Effectivement, j'ai investi dans pas mal de matériel. Je suis autonome et... Et le but est de faire régulièrement en tout cas des projets sur des corps. Et je me destine plutôt à des pièces conséquentes qu'à des petits tatouages du type flash. Voilà, c'est pas forcément ma démarche.
Le corps est considéré comme une toile avec toi.
Ouais, exactement, ouais. Une toile en volume. Et le but est de s'adapter à la morphologie de la personne. Enfin, entre autres, mais en tout cas, le corps est vraiment, vraiment essentiel. Et d'un corps à l'autre, on va pas le travailler de la même façon. Chaque projet, en plus, c'est du partage aussi avec la personne. C'est quelque chose, c'est une histoire humaine aussi, qu'on retrouve pas forcément. Évidemment, on cause guerre avec une toile de peinture. Il y a quelque chose qui se crée aussi qui est assez, assez fort.
Un peu plus humain.
J'aime bien cette idée de confiance en fait, que la personne fait à l'artiste tatoueur pour intervenir sur le corps.
C'est un plaisir de t'avoir reçu. On te retrouve toujours à Villiers.
Oui, à Villiers jusqu'à dimanche, jusqu'au 25, le jour de Noël. Voilà.
C'était un plaisir, de te recevoir. On te retrouve aussi sur les réseaux sociaux.
Oui, sur Instagram. Facebook aussi un petit peu. Voilà.
Gilbertin, un plaisir. Merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent de 13h à 13h30 tous les jours. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous.
Au revoir.